BFM Business. Tout pour investir, Stéphane Pedrazzi.
Il y a une vie après 50 ans, mais oui, on peut encore vivre après 50 ans, profiter, investir, emprunter, même si les règles sont un petit peu différentes. On va en parler avec Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine des Échos.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes auteur d'un dossier qui sera en kiosque vendredi, Les Échos Patrimoine, spécial senior, emprunter, investir, transmettre, quelles sont les règles, quels sont les changements en matière de stratégie, les règles en tant qu'emprunteur. Donc à découvrir en kiosque en cette fin de semaine. Dans un instant, on va vous donner les grandes lignes. Et puis aussi des articles qui seront distillés progressivement sur le fil. leséchos.fr/patrimoine. À partir de 50 ans, Marie-Christine, on est considéré comme senior. On n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que ça change au global d'un point de vue placement?
Alors c'est vrai, comme un yaourt qui a une date de péremption à 50 ans.
C'est horriblement cruel. Voilà, plus de 50 ans, c'est affreux.
À 50 ans, tout va très bien, mais ça peut être une date qui peut déclencher la volonté de se retourner sur ce qu'on a, sur ce qu'on a accumulé, sur son patrimoine, mais aussi de se projeter parce qu'à 50 ans, peut-être que les enfants ont commencé à faire des études, qui sont prêts à partir de la maison, peut-être qu'on a divorcé, peut-être qu'on a une deuxième famille, peut-être qu'on a d'autres envies, peut-être qu'on a envie d'investir dans un bien immobilier, et puis on se rapproche quand même de plus en plus de l'âge de la retraite. Donc 50 ans, je pense que c'est une bonne date pour, par exemple, rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine ou pour rencontrer sa banque et faire un bilan précis et regarder si finalement il n'y a pas des choses à mettre en place, des choses à modifier, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan juridique.
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous conseillez?
Absolument, oui. 50 ans, finalement, c'est une bonne date. On peut le faire avant, on peut le faire après, mais je pense que ça peut être l'âge déclencheur.
Si on s'aperçoit à 50 ans qu'on est hors des clous, qu'on n'a pas épargné assez, notamment pour sa retraite, est-ce qu'on peut encore corriger le tir ou est-ce que c'est un peu tard?
Mais à 50 ans, on est très jeune. On est en fait à 15 ans, finalement, grosso modo, de l'âge de la retraite. Donc, oui, on peut tout à fait mettre...
Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de futures réformes.
Voilà, ça peut encore s'allonger. Donc, ce qui prouve qu'on peut tout à fait mettre en place des plans d'investissement sur le long terme. Et c'est vraiment le très bon moment pour le faire. Alors, bien sûr, il y a deux choses à ne pas perdre de vue. Toujours rester dans un axe de diversification, parce qu'on voit que les classes d'actifs évoluent à la hausse et à la baisse.
Donc mais ça, on peut le dire à tout âge.
À tout âge,
Diversifier, c'est absolument vraiment la règle de base en investissement.
Voilà. Et puis, il faut vraiment regarder quelle est son appétence au risque et puis aussi quel est son horizon d'investissement. Alors, nous, on fait un dossier senior, c'est investir à 50 ans, mais c'est aussi investir après 50 ans et bien après 50 ans. Et ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, à 60 ans, une femme, son espérance de vie, c'est de 30 ans. Donc, quand on explique aux gens que progressivement, lorsqu'ils s'approchent de l'âge de la retraite, il faut tout mettre en liquidité, pas du tout.
Pour pouvoir piocher dedans.
Alors, certes, bien sûr, quand vous allez avoir 65 ans et que vous allez toucher une pension de retraite, vous allez toucher sûrement beaucoup moins à la retraite que ce que vous perceviez lorsque vous étiez en activité. Donc, il faut pouvoir avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir retirer de l'argent régulièrement. Mais pour autant, lorsque vous avez un horizon de 30 ans devant vous n'allez pas tout mettre en livret. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que, sauf circonstances particulières, et justement, c'est peut-être le cas en ce moment, vous avez le livret A qui rapporte 3% net de frais, net d'impôts. C'est vraiment
aujourd'hui un très bon placement. Hormis cette situation particulière, ce n'est pas forcément le meilleur placement.
Ce point très particulier, en général, les livrets, c'est tout en bas du classement lorsque vous observez l'évolution des placements sur le long ou le très long terme. Donc, arriver à 50, 60 ans et tout mettre en cash, je pense que c'est...
Le livret A, c'est limité, 22 000.
Oui, 22 950, de toute façon.
C'est pas avec ça qu'on passe une retraite de milliardaire.
Alors, si vous arrivez à l'avoir plein, c'est déjà pas mal. Mais de toute façon, le montant que vous pouvez placer sur votre livret est quand même plafonné.
Alors concrètement, quels sont les placements les plus rentables?
Alors, les placements les plus rentables, si on se réfère à l'étude de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui sort cette étude régulièrement chaque année, on s'aperçoit, grosso modo, que sur le long terme, voire le très long terme, ce qui arrive en premier, ce sont les actions et l'immobilier. Alors après, il y a des différences parce que l'étude, ils la font sur 5 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans. Je crois que si mes souvenirs sont bons, que sur 15 et 30 ans, c'est vraiment les actions qui arrivent en premier. Si on observe sur 40 ans, par exemple, c'est plutôt l'immobilier qui arrive en premier, notamment l'immobilier d'habitation et puis après les foncières cotées. En troisième position, les actions. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est bien sûr la rentabilité brute l'étude du placement, oui. mais aussi également le cadre juridique et fiscal dans lequel se situent ces placements. Et bien sûr, il faut observer la rentabilité brute des placements sur le long terme. Et c'est là où on voit que les livrets sont très régulièrement en bas du classement, tout à fait en bas du classement. Mais il faut aussi bien regarder le cadre juridique et fiscal de vos investissements de façon à pouvoir faire les bons arbitrages et choisir ce qui est le plus avantageux.
Par exemple ?
Alors, placement tout à fait classique, hein, qui est très prisé par tout le monde et pas seulement les seniors, c'est bien sûr l'assurance-vie. Alors, l'assurance-vie, pourquoi ? Parce que c'est liquide. Alors, il ne faut pas croire que l'assurance-vie, c'est obligatoirement 8 ans. Ça, c'est une légende urbaine. Vous pouvez retirer votre argent de votre assurance-vie à tout moment, mais bien évidemment, si vous attendez 8 ans, et c'est pour ça qu'on dit que l'assurance-vie, c'est un placement plutôt de long terme, c'est là où vous optimisez la fiscalité de l'assurance-vie. Donc, après 8 ans, bien sûr, et même avant, vous pouvez retirer votre argent à tout moment, mais après 8 ans, vous allez bénéficier d'une fiscalité nettement plus favorable. Donc, un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%, sauf si vous avez plus de 150 000 euros en assurance-vie, auquel cas, ça va être 12,8%, donc plus les prélèvements sociaux, ce qui aboutit à la flat tax de 30%. Mais sinon, vous avez donc 7,5%, ce qui est quand même très avantageux, et surtout, vous avez un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule, ce qui fait 9 200 euros pour un couple.
De ce qu'on peut verser sur...
Non, de ce que vous pouvez retirer de d'accord. votre assurance-vie sans impôt. Mais, ce qui est encore plus important, c'est que vous avez un effet d'assiette, parce que dans ce que vous retirez de votre assurance-vie, vous avez une partie du capital et une partie des intérêts. Et ce qui est fiscalisé, c'est uniquement les intérêts. Donc ça veut dire que vous pouvez retirer, si vous êtes un couple, jusqu'à 9 200 euros en intérêts de votre assurance-vie. Donc ce qui veut dire que vous pouvez retirer chaque année beaucoup plus de votre assurance-vie. Ce qui fait que l'assurance-vie, ça peut être vraiment un complément de retraite tout à fait conséquent pour compléter votre pension par répartition.
Autre placement très intéressant pour les seniors, évidemment, c'est le PER.
Alors, le PER, bien sûr, on peut le souscrire à tout âge, à partir du moment où on a 18 ans. Et c'est un placement très intéressant, notamment lorsque vous êtes senior. Pourquoi ? On se dit, il est trop tard maintenant.
Exactement.
Pour
ça, c'est l'idée.
De l'argent
ça, c'est vraiment
sur un
l'idée
PER.
Communément.
Eh bien, pas du tout. C'est justement lorsque vous avez 50, 55 ans, voire 60 ans, que ça peut être très intéressant de souscrire un PER. Pourquoi ? Parce que, d'une part, normalement, c'est à cet âge-là que vous allez le mieux gagner votre vie, donc que votre tranche marginale d'imposition va être plus élevée. Et l'un des avantages du PER, c'est que vous pouvez déduire les sommes versées sur votre PER de votre revenu imposable. Mmh. Alors, lorsque vous êtes salarié, c'est de l'ordre de 35 000 euros le plafond, et lorsque vous êtes non salarié, c'est beaucoup plus haut, c'est de l'ordre de 80 000, 82 000 euros. Donc ça, c'est un premier avantage. Vous allez écraser votre impôt sur le revenu grâce à ce que vous allez pouvoir déduire en plaçant de l'argent sur un PER. Et deuxième avantage, c'est que le PER, cet argent est bloqué jusqu'à ce que vous soyez à la retraite. Mais lorsque vous avez 55 ans ou 60 ans, l'horizon de la retraite, c'est demain. Donc finalement, la liquidité de ce PER, qui est quand même un désavantage par rapport à d'autres placements comme l'assurance-vie, ben, la liquidité de ce PER, ça redevient très compétitif. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez retirer de l'argent de votre PER soit pour acheter votre résidence principale, mais en général, vous êtes déjà propriétaire lorsque vous avez 50 ou 60 ans, soit lorsqu'il y a un accident de la vie dont vous avez une liste limitative qui est énumérée. Mais là, à cet âge-là, justement, c'est très intéressant de se pencher sur l'opportunité d'ouvrir un plan d'épargne retraite.
Est-ce qu'à partir de 60 ans, il faut toujours détenir un PEA ? On dit généralement qu'en avançant en âge, on diminue le risque. Et le PEA, évidemment, le PEA, c'est un support...
Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une femme de 60 ans, elle a de l'ordre de 30 ans d'espérance de vie. Donc, lorsque vous avez 30 ans devant vous, je pense que c'est peut-être pas le moment de clore son PEA à 60 ans.
C'est-à-dire que ces idées qu'on avait il y a quelques années, quand l'espérance de vie était beaucoup plus courte, beaucoup plus limitée, ça
alors,
n'est plus vrai aujourd'hui.
C'est pas que l'espérance de vie a énormément augmenté, mais c'est peut-être. Enfin, oui, ça a quand même augmenté beaucoup ces dernières années.
Elle a augmenté énormément.
Mais a fortiori, aujourd'hui, il faut vraiment prendre en considération cet horizon que vous avez devant vous, et pourquoi se priver de l'enveloppe fiscale du PEA qui est quand même extrêmement intéressante, puisque au bout de 5 ans de détention, et en général vous avez ouvert un PEA bien avant, au bout de 5 ans de détention vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu. Alors vous n'êtes pas exonéré de prélèvements sociaux, mais vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, donc vous pouvez tout à fait continuer à profiter de la dynamique des actions, de la dynamique de la bourse en conservant votre PEA, et pourquoi pas piocher dans ce PEA, puisque maintenant les retraits n'entraînent plus la clôture de ce PEA. Vous pouvez tout à fait vous dire, ben voilà, par exemple j'ai des valeurs de rendement et je vais retirer chaque année ce que m'auront rapporté mes dividendes, ou je vais regarder ce que j'ai réalisé comme plus-value dans l'année par rapport à mon PEA, donc je n'entame pas mon capital, mais je vais finalement piocher dans mes plus-values pour m'offrir ce petit voyage dont j'ai très envie, et je ne vais pas entamer mon capital, et je garde ce cadre extrêmement avantageux, ce cadre fiscal extrêmement avantageux. Alors après, lorsque vous aurez 80 ans, évidemment, on se reverra, et je vous dirai peut-être à ce moment-là, effectivement, mettez plus d'argent sur le fonds en euros de votre assurance vie, mettez plus d'argent en cash, voilà, parce que vous aurez peut-être besoin de dégager davantage de cash.
Une question qu'on se pose souvent lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, c'est quel placement est-ce qu'on peut effectuer pour obtenir des revenus réguliers ?
Alors, placement très vraiment plébiscité par les Français ces dernières années,
les SCPI.
Alors, les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier.
C'est un peu compliqué en ce moment.
Alors, il faut dire qu'en ce moment, elles ne sont pas vraiment à la fête. Alors, on peut rappeler en deux mots ce que sont les SCPI.
Hein, la pierre papier.
Pierre papier, ça consiste à mettre de l'argent dans un pot commun, ce qui permet aux particuliers d'avoir accès à l'immobilier de bureau, à l'immobilier commercial, dont le rendement est en général bien supérieur à celui de l'immobilier d'habitation. Et puis surtout, ça vous évite d'avoir tous les soucis de gestion en direct dont parlent souvent les petits propriétaires indépendants qui vous disent « j'ai des problèmes avec mon locataire », qui vous disent « il faut que je fasse les quittances, il faut que je fasse les travaux, j'ai un mauvais payeur ». Enfin bon, tout ça, vous n'avez pas ce genre de problème avec les SCPI. Donc finalement, c'est les avantages de l'immobilier sans les inconvénients de l'immobilier. Alors ça, c'est la partie du verre à moitié plein. Passons du côté du verre à moitié vide. Retournement de situation totale concernant les taux d'intérêt. Donc par le passé, les SCPI étaient extrêmement compétitifs parce que ça rapportait du 4-5%
dans
en moyenne.
Dans un contexte de taux négatif.
Dans un contexte de taux négatif. Donc c'était absolument génial comme placement. Vous aviez un rapport rendement-risque assez fabuleux. Donc beaucoup de personnes se sont précipitées sur les SCPI. Peut-être ont mis une part trop importante de leur patrimoine dans ces SCPI. Là, retournement de situation, donc avec la hausse des taux d'intérêt. Les SCPI sont devenues beaucoup moins compétitives. En plus, tout ça s'est combiné avec une moindre appétence pour l'immobilier de bureau. Bon, là, il y a eu la crise Covid, il y a beaucoup de télétravail, il y a pas mal d'entreprises aussi qui ont réduit la voilure. Bref, c'est le prix de ces actifs qui avait énormément augmenté s'est mis à baisser. Donc, beaucoup de SCPI depuis 2 ans se sont mis à baisser le prix de la part au grand dam.
Mais avec les baisses de taux qu'on attend, ça reviendra peut-être.
Alors, peut-être que ça va remonter. Enfin, pour l'instant, elles sont quand même pas à la fête et on attend de nouvelles baisses de prix de part. Reste qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que en 2023, les SCPI ont quand même rapporté en moyenne, grosso modo, du 4,5%. C'est pas forcément le plus mauvais placement, même si effectivement, des investisseurs peuvent être déçus, parce que si malgré ce bon rendement, si ils ajoutent la baisse du prix de part, ils se disent qu'ils ont réaliser une perte en capital. Enfin, il faut être un petit peu patient sur les SCPI.
Il nous reste très peu de temps, mais on ne peut pas éviter le sujet. La vente en viager, lorsqu'on avance en âge, c'est forcément un sujet auquel on pense un jour ou l'autre.
Absolument. Alors, la vente en viager, on connaît tous le principe. Hein. Vous vendez votre bien et vous allez toucher ce qu'on appelle un bouquet, c'est-à-dire une somme de façon immédiate. Et puis, vous allez après toucher une rente tous les mois que doit vous verser normalement l'acquéreur jusqu'à la fin de votre existence.
Et alors, ça, c'est pas au doigt mouillé. Hein. Ce sont des ratios, des grilles de calcul.
Absolument. Alors déjà, ça dépend de la valeur vénale de votre bien. Ça dépend aussi de votre sexe, hein, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc elles vont toucher un peu moins si elles vont en viager que leurs homologues masculins. Et bien sûr, de grilles qui ont été réalisées en fonction de l'espérance de vie de chacun. Alors, ce n'est pas forcément la panacée, parce que le marché est quand même relativement étroit. Il y a seulement 3% des ventes immobilières qui sont réalisées en viager. Puis en ce moment, on sait que l'immobilier n'est pas non plus à la fête. Il n'y a pas énormément de ventes qui se font. Alors, il y a une autre possibilité pour les seniors. Il y a pas mal de sociétés qui, aujourd'hui, vous proposent en fait de vous verser uniquement le bouquet, mais de rester dans votre bien. Ça peut être une façon pour un senior de se procurer du cash.
Il y a aussi le démembrement de propriété et de vendre uniquement la nue propriété et de garder l'usufruit.
C'est aussi une solution intéressante, oui, absolument.
Merci beaucoup pour ces conseils.
Avec plaisir.
Analyse très, très précise. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef Patrimoine des Échos, avec un numéro donc à retrouver en kiosque ce vendredi, spécial senior, emprunter, investir, transmettre. Tous les conseils et toutes les questions qu'il faut se poser, à commencer par, vous l'avez dit, faire un bilan quand on arrive à 50 ans sur ses investissements et sa situation patrimoniale. Merci beaucoup.